Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Du travail. Amen. Nous continuons à parler du travail, à parler de l'action. Mes frères et mes soeurs, nous devons être en action. Le christianisme d'aujourd'hui, c'est un christianisme qui est dans l'action. Amen. Ce n'est pas un christianisme qui est seulement dans le parler. Ce n'est pas seulement des paroles. Ce n'est pas seulement qu'on parle. Non, c'est un christianisme qui va en profondeur dans l'action. Ce quand nous travaillons pour le royaume, c'est quand nous nous mettons à œuvrer, nous nous mettons dans le travail. Amen. Et c'est ça qui est très important pour voir un avancement, pour voir un changement, pour voir un résultat. Nous devons nous mettre dans l'action parce que Dieu bénit le travail. Amen. Des fois, on prie beaucoup. Qui est d'accord avec moi que nous prions beaucoup? Dans nos églises, si tu viens, tu vas voir vraiment les gens dans la prière. Les gens dans la prière. Mais mes frères et mes sœurs, nous verrons un résultat dans nos prières si nous allons encore ajouter l'action. C'est-à-dire, je prie et je me mets en action. Il y aura la grâce de Dieu qui va me conduire. Mais nous prions beaucoup. Des fois, nous prions beaucoup, mais l'action, elles ne sont pas proportionnelles à nos prières. Nous devons être en action. Amen. Nous devons travailler. Travailler pour vraiment qu'il y ait des résultats dans nos ministères. Travailler pour l'évangélisation. Travailler pour apporter les gens l'évangile. Travailler pour donner les flyers. Travailler pour que les gens reçoivent la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, c'est dans Ecclésiaste. Est-ce qu'on peut voir Ecclésiaste? On va voir le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, le verset 10. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Mes frères et mes soeurs, nous devons faire ce que je peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous donne une journée. Et si nous avons un appel, si nous avons un ministère, nous devons travailler pour que ce ministère croître, pour que ce ministère grandisse. La Bible dit, c'est tout ce que tu fais, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'a ni œuvre, ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Nous devons travailler aujourd'hui. Nous devons nous mettre au travail. Au travail pour élever une nouvelle génération. Au travail pour former des nouveaux leaders. Au travail pour former des nouvelles personnes qui vont travailler, qui vont apporter, qui vont porter avec nous le fardeau du ministère. Nous devons travailler pour, que notre ministère grandisse de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Il y a une part que l'homme doit faire. Et il y a une part que Dieu fera. Mais Dieu ne pourra rien faire. C'est pas qu'il est incapable. Mais Dieu veut que c'est tout ce qui dépend de l'homme. L'homme doit le faire. Et tout ce qui va dépendre de Dieu, lui le fera. Amen. Pourquoi? Parce que nous comme hommes, on ne peut pas faire le travail de Dieu. Et Dieu même ne peut pas faire notre travail. Amen. Dieu, sur cette terre, il n'est pas là. Bon, disons physiquement. Mais il a ses enfants. Il a son esprit. Amen. Et nous avons lu ici qu'il bénit l'œuvre de mes mains. L'action que je fais aujourd'hui. Tout ce que je fais, Dieu bénit. Il y a sa bénédiction qui descend. Quand je suis dans l'œuvre, quand je suis dans le travail, quand je planifie un travail et que j'accomplis ce travail. Amen. Dans Matthieu 25, 14, à partir du verset 14, est-ce qu'on peut voir, c'est Matthieu 25, 14. Dieu nous parle ici d'une parabole de trois serviteurs. C'est-à-dire il y a le premier qui a réussi le combien trois talents. On va lire, c'est Matthieu 25. Il en sera comme d'un homme qui partant pour voyager après ses serviteurs et il leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un d'eux et l'autre et un au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc, il dit, Dieu parle dans cette parabole, il dit que non, il y a le responsable qui donne à chacun, qui a donné selon leur capacité. Il a donné à chacun de bien. Mais si vous voyez, les deux premiers ont été bénis. Amen. Et le troisième n'a pas été béni. Le troisième, la Bible dit qu'il est allé, le verset 25, on peut lire, « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. J'ai eu peur et je suis allé cacher. » Donc, il n'a même pas travaillé. Il ne s'est pas mis dans l'action. Dieu l'a donné un talent. Dieu l'a donné des potentiels. Dieu l'a donné tout, mais il a pris tout ce qu'il avait, il est allé cacher. Il n'a pas travaillé. Mais ces deux premiers, ils ont travaillé, ils ont récolté un bénéfice et ils ont apporté ce bénéfice chez leur chef. Amen. Ils ont apporté un bénéfice. C'est-à-dire qu'ils ont même payé le prix du travail. Ils ont travaillé. Pourquoi? Parce que s'ils ne travaillaient pas, ils ne pouvaient pas avoir un résultat. La Bible dit qu'ils étaient dans l'œuvre, ils ont travaillé et ils ont vu le résultat. Et quand cet homme est arrivé, cet homme a commencé à demander le rapport, un bilan du travail que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps? Est-ce que tu as travaillé avec l'œuvre que je t'avais confiée? Est-ce que tu as travaillé avec le ministère que je t'ai confié? Qu'est-ce que tu as fait avec ce désir et ce vouloir que j'ai mis dans ton cœur? Est-ce que tu as œuvré? Est-ce que tu as travaillé avec le gens que je t'ai confié? Est-ce que tu as travaillé? Et les deux premiers, ils avaient de quoi montrer à leur responsable. Ils sont venus, ils ont dit, voilà tout ce que tu nous as donné, voilà ce que nous avons réussi. Nous avons travaillé avec les talents que tu nous as donnés et voilà le bénéfice. Et le troisième ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il est allé les cacher. Et qu'est-ce que le chef lui dit? Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Qu'est-ce que ça veut dire paresseux? Paresseux, c'est-à-dire c'est la personne qui fuit, qui évite le travail. C'est la personne, quand il voit un travail, lui il cherche à éviter. Il cherche le côté le plus facile, seulement pour ne pas travailler. Il a dit, tu es méchant et tu es paresseux. Mes frères et mes sœurs, la paresse aujourd'hui peut nous emmener à une destruction. Pourquoi? Parce que ça détruit la personne. Et la personne paresseuse ne peut pas avoir un résultat. La personne qui est paresseuse ne peut pas avancer. J'ai même écrit un livre. Mais ce livre n'est pas en français. Et là en russe. J'ai écrit un livre en russe. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons essayer de le traduire. Et ce livre, c'est la raison de ma pauvreté. La raison de ma pauvreté. Et c'est ce que je veux parler maintenant là. La raison de ma pauvreté. C'est-à-dire que ici, vous voyez un homme qui est, là, qui est couché. Hein. Il veut atteindre, il rêve de grandes choses. Il rêve avoir de grands, un grand ministère. Alléluia. Il rêve vraiment de grandes choses. Je ne sais pas s'il vous est arrivé une fois de venir dans une vitrine et de voir de bonnes choses, de belles choses, devant une vitrine là, hein, mais que vous n'avez pas cette capacité là de pouvoir acheter. C'est pareil à beaucoup de gens qui sont dans la paresse. On rêve beaucoup de bonnes et grandes choses, mais on ne se met pas au travail pour avoir ces choses. Donc, le maître est venu, a dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Amen. Ce qui est à moi avec un intérêt. Dieu veut aujourd'hui recevoir quelque chose avec un intérêt de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il nous a, qui a investi dans notre vie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut écrire un point, disons un thème, un sous-thème? Pour travailler, mes frères et mes sœurs, nous devons vaincre la paresse. Pour travailler, nous devons vaincre la paresse. C'est une question que nous connaissons bien. C'est un point que nous connaissons bien, mais en tout cas, je préfère aujourd'hui nous rappeler chacun de nous que nous puissions vraiment mettre fin à toutes sortes de paresse dans notre vie. Amen. Nous allons voir aujourd'hui, maintenant, Proverbe 6. Mes frères, vous devez savoir que non, chacun de nous a une sorte de paresse. Et nous devons savoir que l'une des choses qui peut freiner notre ministère, qui peut freiner notre avancement, c'est la paresse. Dans Proverbe 6, à partir du verset 9, la Bible dit « paresseux ». Jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil. La Bible dit un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Frères et sœurs, vous devez savoir que là où il y a la pauvreté, il y a la paresse. L'une des raisons de la pauvreté, c'est la paresse. Bon, bien sûr, la pauvreté peut être causée par beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Mais la Bible parle ici de la paresse et de la pauvreté. Donc, c'est comme frères et sœurs qui marchent toujours ensemble. Quand une personne ne veut pas travailler, mes frères et mes sœurs, tôt ou tard, vous allez rencontrer la pauvreté. Et quand je parle de pauvreté, je ne dis pas forcément une pauvreté financière. Une pauvreté dans la sagesse, dans les connaissances, une pauvreté dans la façon de voir les choses. On est pauvre. Pourquoi on est pauvre? Parce qu'on ne travaille pas. Parce qu'on ne paye pas le prix. Parce qu'on est toujours couché. Parce qu'on cherche toujours le chemin le plus facile. Le chemin là où il y a moins de résistance. On veut toujours être à l'aise. On veut toujours vivre à l'aise. Avoir tout autour de nous. Avoir vraiment toutes les possibilités. Mes frères et sœurs, quand on voit la vie de Jésus, Jésus travaillait. Il n'était pas paresseux. Amen. La Bible nous parle, la Bible dit qu'il parcourait les villages, les villes. Il marchait, il était dans les synagogues, il était au nord, au sud, il était partout. partout. Et les gens le suivaient. Il était toujours en mouvement. La Bible, il y a un moment où la Bible dit que toute la nuit, il passa, il était dans la prière. Avant, dans le jardin de Gethsémane, il était dans la prière. Et quand il est venu, il a vu ses disciples étaient en train de dormir. Il était endormi. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas persévérer une heure dans la prière? Une heure dans la prière avec moi. Une heure en intercédant avec moi. Pourquoi? Parce que Jésus était contre la paresse. Aujourd'hui, la paresse, elle détruit la personne. Et ne pas seulement la personne, mais après avoir détruit la personne, elle détruit le ministère. On ne peut pas apporter le fruit. Pourquoi? Parce qu'on est endormi. On est couché. La Bible dit clairement ici, jusqu'à quand tu vas dormir? Jusqu'à quand? On peut rêver aujourd'hui de bonnes choses, mais si nous n'allons pas nous mettre au travail, mes frères et sœurs, nous ne verrons pas un résultat. Amen. Nous ne verrons pas un résultat. Je parle de ça pourquoi? Parce que je me vois moi-même, qu'il y avait un moment où j'étais tellement paresseux que je me suis dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que je lutte, que je combatte cette paresse. Pourquoi? Parce qu'après, cette paresse devient une maladie chronique. On ne peut rien faire. On répond de tout. Tu peux faire aujourd'hui, on va voir demain. Et puis quand tu réponds de ce que tu peux faire aujourd'hui, tu sens au fond de toi une petite satisfaction. On va faire demain. Viens demain. Demain. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de toujours reporter. Il y a des gens qui reportent toujours. Je viens demain. On va voir demain. On va faire demain. Demain. Ah, l'année prochaine, on va voir. Et plus on reporte, plus on a plus cette capacité de faire ce qu'on pouvait faire. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on a cette capacité, on a ces possibilités de faire quelque chose, mais faire, on doit le faire aujourd'hui. Et le faire et vivre d'une façon maximum, comme s'il n'y a pas de demain. Je vis seulement aujourd'hui. Amen. Vivre d'une manière maximum, que aujourd'hui je ferai tout. Tout ce que ma main peut faire. Pourquoi? Parce que le fait de reporter ce que vous pouvez faire aujourd'hui, mes frères et mes soeurs, demain vous aurez encore d'autres occupations. Et additionner et ce que vous allez faire dans l'avenir, et ce que vous avez reporté, mes frères et mes soeurs, on ne peut rien. On ne pourra rien faire. Amen. Donc l'un des principes pour que nous puissions, dans notre ministère, avancer, pour accomplir notre ministère, nous devons nous mettre dans le travail et vaincre la paresse. Amen. Nous devons vaincre la paresse. Nous devons vaincre la paresse. Proverbe 10:4. La Bible dit que celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. La main des diligents enrichit. Celui qui agit d'une main lâche. Dans la Bible, disons russe, hein, c'est écrit celui qui est paresseux s'appauvrit. Donc celui qui ne fait rien, il s'appauvrit de jour en jour. Mais celui qui est diligent s'enrichit. Amen. Mes frères et mes soeurs, il faut bien voir. Ici, on ne dit pas que celui qui est chrétien s'enrichit. On ne dit pas que la main des chrétiens enrichit. Pourquoi? Parce que tu peux être chrétien. Tu peux être chrétien et être paresseux, être pauvre. Ici, la Bible nous parle des diligents. C'est-à-dire des gens qui se mettent au travail, les gens qui travaillent. La Bible dit que la main des diligents enrichit. Diligence, c'est la personne qui fait bien son travail. C'est la personne qui est habile dans son travail. C'est la personne qui est toujours en activité. C'est la personne qui cherche toujours à faire quelque chose. C'est une personne qui est diligent. et qui ne fait pas seulement un travail juste pour faire, mais il le fait d'une bien, en qualité. C'est-à-dire qu'il se force pour bien faire son travail. Amen. Et pour accomplir notre ministère, frères et sœurs, nous devons être habiles, nous devons être des diligents qui enrichissent le ministère. Nous devons être les gens qui travaillent, non pas des paresseux. Amen. Comment découvrir la paresse? Pourquoi? Parce qu'on peut avoir, on peut être paresseux et ne pas le savoir. On peut aujourd'hui ignorer que non, on est paresseux. Mais vraiment, il faut que nous puissions le découvrir et mettre fin à cette paresse. Amen. Ok. Comment découvrir que vraiment je suis paresseux? Mes frères, c'est un paresseux, c'est lorsque, premièrement, lorsque vous n'avez pas des activités concrètes. Au début, nous avons parlé de planifier sa vie. Quand une personne se lève le matin et qu'il n'a rien à faire, mes frères, c'est un paresseux. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de moment où, dans la journée, par exemple, vous avez beaucoup d'activités à faire, et quand vous les planifiez et vous les faisiez, vous avez encore beaucoup plus de temps que lorsque vous n'avez rien à faire. Il y a des moments où vous rêvez le matin, quand vous rêvez le matin, il n'y a pas une activité, ça c'est un mauvais signe. Bon, bien sûr, il y a des moments où on se repose, où on ne veut rien faire. Mais une personne habile, intelligente, a toujours une activité à faire. Amen. Il a toujours une activité. Comment découvrir la paresse? On découvre la paresse lorsque la personne cherche les moyens les plus faciles. Dans Matthieu 7, 13 et 14, la Bible nous dit de chemins étroits et des chemins spacieux. Amen. Est-ce qu'on peut voir ça, Matthieu 7? Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Mes frères, mais ça, il y a des chemins étroits et il y a les chemins spacieux. Amen. Il y a beaucoup de gens. Ils cherchent toujours à fuir le travail, à chercher des moyens les plus faciles. Le moyen le plus facile. Et plus en cherchant ce moyen, mes frères et mes sœurs, c'est un signe de paresse. On ne veut pas travailler. J'ai rencontré des gens, quand on parle de bonnes choses, ils sont bien, ils sont à l'aise. Mais quand je les ai dit, mes frères et mes sœurs, commençons à travailler. Oh non, 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 non. On cherche des excuses. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'une des raisons, l'une des signes d'un paresseux, c'est qu'il a toujours des excuses. Toujours. Toujours. C'est dans Proverbe 22, 13, on peut voir. Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Allons-y évangéliser. Ah, pasteur, il y a un lion là-bas. Parce qu'il fait froid aujourd'hui dans la rue. Il fait froid. Encore, pendant ces derniers temps, il fait tellement froid dehors et je suis sous la couverture. Et je me sens bien sous la couverture. Ah, le pasteur nous dit encore d'aller faire l'évangélisation. Ah, il trouve des excuses. Toujours. Nous allons faire quelque chose. Lui, il tourne toujours. Oh, il faut que j'aille voir quelqu'un. Il faut que j'aille faire ceci. Ça, c'est la paresse. Il ne veut pas travailler. Mais il veut jouir des bénédictions. Le point suivant, comment découvrir la paresse? Les paresseux, mes frères et sœurs, ils dépendent toujours, ils vivent toujours, dépendent des autres. Ils dépendent des autres. Est-ce que tu peux me donner 5 euros là, hein? Est-ce que tu peux me donner 10 euros? Tu n'as pas quelque chose là à me donner? Tu n'as pas, est-ce que tu pourrais... Il faut bénir les gens. Hein? Donc ils cherchent toujours à vivre en dépendant des autres. Ils sont des parasites. Eux-mêmes ne travaillent pas. Eux-mêmes ne fournissent aucun effort. Mais ils cherchent à vivre toujours en dépendant des autres. peut-être que vous êtes vu. Ou bien vous avez remarqué qu'il y a des gens comme ça autour de vous. Mes frères et mes sœurs, avec des gens comme ça, on ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, ils vont attirer la pauvreté dans votre ministère. Et si vous-même vous ressentez ça, en tout cas, là, il faut combattre. Là, il faut mettre fin à ça, à la paresse. Amen. Je veux savoir, est-ce que c'est... Tout ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est vraiment ça nous aide? C'est nécessaire, hein? Alléluia. Parce qu'il ne veut pas se mettre au travail. Il ne veut pas se mettre au travail. Et le paresseux aussi, quand il s'engage pas en profondeur. Il s'engage seulement un tout petit peu là. Et vous pouvez le remarquer même dans les églises. Ils sont là, ils viennent. On ne sait pas sa position. Ou bien il est avec nous, ou bien il n'est pas avec nous. On ne sait pas sa position. Je ne sais pas si vous avez remarqué des gens comme ça. On ne sait pas, est-ce que tu es là avec nous, ou bien ton esprit est ailleurs? Pourquoi? Parce que quand on veut travailler, non, moi je ne suis pas là. J'ai beaucoup de choses à faire. Alléluia. Amen. Je crois que nous allons vaincre la paresse dans notre vie. Amen. Nous allons vaincre. Parce que plus nous laissons le temps, plus nous laissons l'occasion à la paresse de prendre la place, plus, mes frères et sœurs, nous tombons dans la pauvreté. Et plus nous sommes pauvres, plus on n'est pas une bénédiction pour le peuple de Dieu. Les responsables doivent travailler plus que les gens. Pourquoi? Parce que cette responsabilité, il faut savoir, mes frères et sœurs, que dans la responsabilité, il y a ce qu'on appelle les obligations. Quand je suis responsable, il y a des obligations que j'ai devant un peuple. Ça dit que je dois travailler plus. De fois, quand je rentre, après cet enseignement, venir à la maison, rester 1 heure, 2 heures à travailler encore. À travailler. Amen. Travailler spirituellement. Travailler avec la parole de Dieu. Travailler. Des fois, vous allez voir le membre, même ils ont même la paresse de pouvoir noter la prédication du dimanche. Ou bien les enseignements. Ils ont même là, cette paresse-là d'écrire. Pourquoi? Parce que quand on laisse entrer la paresse dans notre vie, en tout cas, ça vient en profondeur. Ça entre en profondeur. Ça entre en profondeur. Et en fin de compte, la personne ne peut rien faire. Un signe qui montre que la personne est paresseuse, c'est lorsque la personne dort trop. Dormir, quand on aime trop dormir. Un chrétien, ce n'est pas celui qui aime dormir. Parce que vous risquez de dormir, vous réveillez, puis l'enlèvement est passé. Jésus est venu, il a pris les seins, toi tu as dormi. Donc un chrétien, si vous avez remarqué même dans la Bible quand on parle d'Abraham, d'Abraham s'est levé tôt le matin. Abraham s'est levé tôt le matin. Pourquoi? Parce que Abraham c'est l'homme de foi. Pourquoi? Parce que le matin, quand tu te réveilles le matin, je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre vie, quand vous réveillez le matin dans la prière, cette journée est entre vos mains. Amen. Cette journée vous appartient. Dormir 5 heures du matin, tu es là déjà debout. Alléluia. Amen. Voilà un chrétien. Bien sûr, on dort tôt, mais il faut se réveiller tôt. Ne pas passer des heures là dans les lits, dormir. Pourquoi? Parce que plus vous dormez, vous allez remarquer, plus vous dormez, plus on a envie de dormir. Et plus on a envie de dormir, plus il y a une faiblesse physique qui vient. Vous devenez physiquement faible. Vous devenez physiquement faible. Et c'est en ce moment-là que la pauvreté vient frapper à la porte. Ne permettez jamais de dormir jusqu'au-delà de 7 heures du matin. Non, non, non. C'est trop. Moi, j'ai toujours dit que c'est un confort. Alléluia. Et puis, il faut que nous puissions toujours apprendre à sortir de tous les conforts. Nous devons apprendre à sortir des conforts. Pourquoi? Parce qu'il y a des conforts qu'on a à la maison, tout ça. Il faut des fois apprendre à sortir. Amen. Pourquoi? Parce que notre corps physique a toujours tendance à chercher du confort. C'est très bien, c'est bien. Mais il y a des conforts qui peuvent vous ensommeiller et puis vous perdez tout. En particulier, le temps que nous vivons maintenant, c'est un temps d'être vraiment très attentif de ce que Dieu est en train de faire. Très attentif à ce qui se passe autour de nous. Amen. Être très vigilant. Se réveiller le matin de prier. Pourquoi? Parce que si on veut voir aujourd'hui l'avancement de notre ministère, nous devons vraiment être vigilants et mettre fin à toutes sortes de paresses. Amen. Alléluia. Et comment la vaincre? Comment vaincre la paresse? Nous allons voir maintenant comment vaincre la paresse. Ça, c'est très très important, frères et sœurs. Nous devons vaincre. Nous devons comprendre une chose, que ce n'est pas agréable devant Dieu. Dieu n'est pas paresseux. La Bible dit, c'est dans Jean 5, 17, que mon Père agit et moi j'agis. Jésus a dit que mon Père agit, que le Fils voit le Père agir et moi j'agis. Donc Jésus, lui, il agissait en fonction de ce qu'il voyait dans la vie du Père. C'est pour dire que Dieu travaille et moi je dois travailler. Amen. Dieu est en action et moi je dois être en action. Dieu travaille et moi je travaille. Donc comprendre que vraiment ça ne correspond pas au principe biblique. Comprendre que cette paresse-là, elle va apporter tôt ou tard une destruction dans ma vie, dans ma famille. J'ai rencontré beaucoup de gens aujourd'hui qui ont beaucoup de potentialités, mais qui dépendent. Ici en France, il y a ce qu'on appelle les allocations. Il y a une aide sociale. Le chômage, hein? Hein? Le RMI, hein? Il y a le RMI, il y a comment on appelle ça encore? Il y a plusieurs. Et j'ai rencontré des gens qui disent, ah, il y en a, tant que ça donne, ça va. On peut rester calme. On peut se calmer, on peut vivre. Non, 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 frères et sœurs. Nous avons tellement de capacités et vivre seulement avec ces combien, 500 ou 300 euros, et se contenter de ces 300 euros. J'ai vu des Africains qui vivent seulement avec ça. Et qui se contentent de ça, de jeunes. De jeunes qui pouvaient vraiment mettre en œuvre leur capacité. Aller avoir une formation. Créer des entreprises. Créer quelque chose. Et avoir même beaucoup plus. Mais ils préfèrent un chemin plus facile. Je ne travaille pas, mais tant que l'État me donne, ben ça va. On se calme, on est bien. Mais frère, c'est une sorte de dépendance. Pourquoi? Parce que quand on est, on dépend de RMI ou bien de tout ça, on ne peut pas libérer nos capacités. On ne peut pas libérer ce que Dieu nous a donné. De la même façon, c'est comme la troisième personne qui a dit que non, tout ce que tu m'as donné, j'ai pris, j'ai caché. Je l'ai caché quelque part là. Mais tôt ou tard, nous allons donner un bilan, un rapport à notre maître. Est-ce que nous allons dire que Seigneur, moi j'avais les RMI là, qui chaque mois je percevais les RMI ou bien, comment on appelle ça, les allocations, tout ça. On me dit que moi je t'ai donné des talents, un ministère. Quand on a lu ça ce matin, non? Que quand tu étais encore dans le ventre de ta maman, je t'avais consacré dans le ministère, je t'avais vu, je t'ai vu, j'ai mis en toi des capacités, un rêve que tu peux accomplir aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, si vous rencontrez des jeunes qui vivent seulement avec les RMI, là en tout cas, il faut leur dire, hein, parce que Dieu va secouer le monde, qu'il n'y aura même plus de ces RMI là. Parce qu'il y a les réformes qui viennent, qui doivent venir. Dieu va secouer, et en secouant, les gens qui dépendent seulement de ça, ils risquent de se retrouver dans une position là, dans des positions difficiles. Amen. Nous devons apprendre aux jeunes de travailler, de prendre la responsabilité de leur famille, de libérer leurs capacités. Ils peuvent faire quelque chose. En plus, si nous sommes avec le Seigneur, mes frères et mes sœurs, Dieu est grand. La Bible dit que Dieu bénit le travail de nos mains. La Bible dit que Dieu nous donne la capacité d'acquérir la richesse. C'est dans Deutéronome. Il nous donne la sagesse, il nous donne toutes les capacités. Amen. Donc, en tout cas, nous ne devons pas chercher ce moyen de facilité. Et pourquoi? Parce que ce moyen de facilité, est-ce que ça favorise? Ça ne nous favorise pas. De plus en plus, nous cherchons ce moyen de facilité. Pour faciliter, de plus, la paresse, elle augmente. Donc, nous devons vaincre ça. Amen. Et comment vaincre encore la paresse? Mes frères et sœurs, ne rapportez jamais ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Faites-le maintenant. Amen. Pourquoi? Parce que plus vous rapportez, plus ça devient une habitude. Et plus vous allez voir que vous allez demain, on va faire demain, et demain vous allez vous rencontrer avec un tas de tâches et de travail que vous ne pouvez pas faire. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que moi j'ai rencontré ça. Il y avait des moments où je disais que je vais faire demain. Et puis après, quand demain est arrivé, le demain-là a encore amené beaucoup d'autres occupations. Et ce que j'avais reporté, je ne pouvais pas faire. Je dis, je laisse tomber. Et j'ai raté beaucoup de choses comme ça. On peut voir Jean 9. Jean 9, le verset 4. La Bible dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Voilà, c'est Jésus qui dit, pendant qu'il est jour, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et il dit, La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il faut que je fasse l'œuvre. Amen. Mes frères et mes sœurs, faisons l'œuvre maintenant. Amen. Le temps passe, on vieillit. Le temps passe, on grandit, le temps passe, et vous allez remarquer que les forces que vous avez quand vous avez 20, 25 ans, ce n'est plus le même force, capacité que vous avez quand vous avez déjà 40 ans ou 50 ans. Vous allez remarquer que il y a plus la fatigue. Il y a plus la fatigue. Je veux un peu vous parler de mon pasteur. Il a commencé son ministère, il avait 27 ans. 27 ans. Et à l'âge de 27 ans, il avait déjà une église de 1000 personnes. Parce que son école, il a commencé en Ukraine, il avait l'âge de 27 ans. Et son secret, l'un des secrets de son ministère, c'est qu'il ne reporte pas ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et quand il a commencé son ministère, Tout ce qu'il recevait du Seigneur, toutes les révélations qu'il reçoit du Seigneur, il s'efforçait de tout, il utilisait toutes les possibilités pour le faire. Donc il faisait tout pour faire quelque chose. Il ne répondait pas, on va voir demain. Non. Lui, ici, il rencontre des gens qui disent qu'on va voir demain. Lui, il préfère chercher des gens qui veulent travailler maintenant. Et son secret est qu'il fait toujours le maximum dans une journée. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de livres, je ne sais pas, peut-être que vous avez vu le nombre de livres, et en anglais, et en russe. Il a plus de 200 livres. On ne peut pas, on n'a même pas le temps de lire. Lui, il a déjà un nouveau livre qu'il écrit. On ne peut pas le suivre. Je me rappelle quand on était à Kiev, on a des difficultés à pouvoir le suivre. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en mouvement. Il file avec une vitesse incroyable. Une fois, on était chez lui dans son bureau. Il nous a dit, en tout cas, je remercie le Seigneur pour vous qui sont à côté de moi. Je comprends pourquoi il... Pourquoi? Parce que je travaille avec une vitesse. Si vous êtes à côté de moi, c'est que vous travaillez. Pourquoi? Parce que être à côté de lui, il faut vraiment être une personne qui travaille. Parce qu'il travaille avec une vitesse considérable. Une grande vitesse. Et c'est l'un de ses secrets. Amen. Et c'est pour cela que ce qui a fait qu'à l'âge de 27 ans, à l'âge de 27 ans seulement, et maintenant il a combien? 67, il est né en l'année 67. 43 ans, je crois, ou bien 42 ans. Donc pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le secret, c'est le fait de ne pas répondre, de faire vraiment aujourd'hui ce que ma main peut faire. Amen. Alléluia. Je crois que ça va nous aider dans notre ministère. Et mes frères et sœurs, l'un des choses que nous devons aussi comprendre pour mettre fin à notre paresse, c'est que nous vivons seulement une seule fois. Le temps est court. Le temps, on n'a pas beaucoup de temps. Nous vivons seulement une seule fois. Bon, bien sûr, nous allons vivre éternellement, gloire à Dieu. Mais ici, on a seulement une vie. Amen. Et le diable, des fois, il vient, il va dire, tu as beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps. Ça, c'est un mensonge du diable. Il n'y a pas de temps comme on le pense. Il n'y a pas de temps. S'il n'y a pas de temps, c'est-à-dire que je dois être très attentif à tout ce que je fais aujourd'hui. Je dois travailler pour avoir un résultat. Ceux qui ne veulent pas travailler, moi je serai avec ceux qui veulent travailler. Ceux qui veulent recevoir quelque chose parce qu'ils sont sérieux. Parce que leur vie, ils ne prennent pas leur vie à la légère. Mais ils sont sérieux avec les seigneurs. Ils sont des responsables qui veulent voir quelque chose. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aussi, comment vaincre la paresse? Il faut cesser de dormir trop. Amen. Il faut cesser de dormir trop. Il faut vraiment se discipliner à réveiller le matin, à être dans la prière. Amen. Bon, bien sûr, il y a des gens qui sont matinales. Il y a des gens qui travaillent beaucoup plus la nuit. Il faut, si je me réveille tard, ça dit que je travaille la nuit. Si je me réveille tôt, c'est pour travailler. Amen. Moi, par exemple, je suis matinal. À mon épouse, elle aime bien travailler la nuit. Donc, tu vois, on est différents, quoi. Moi, la nuit, j'ai fait des choses avec des difficultés. Mais le matin, vraiment, ça, c'est mon temps productif. C'est-à-dire que chacun a son temps là où il peut être beaucoup plus productif, efficace, quoi. Donc, vous devez définir quel est mon temps. C'est la nuit ou bien c'est le matin? Amen. Il y a des gens, le matin, vraiment, ils se sentent en forme, ils se sentent bien pour faire quelque chose. Ok. Et comment il faut vaincre la crainte, et pas la crainte, la paresse. Mes frères et mes soeurs, il faut créer des défis. Créer des défis, c'est-à-dire... En d'autres sortes, c'est-à-dire, comme mon pasteur a toujours dit, il dit créer des problèmes et les résoudre. C'est-à-dire, tu crées quelque chose et tu résous ce problème. Pourquoi? Parce que ça va te pousser à être toujours dans des activités. Amen. Tu crées un défi. C'est-à-dire que, par exemple, bon, peut-être que vous n'avez pas compris, je vais expliquer. Créer des défis, c'est-à-dire... Chercher à penser, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quelque chose qu'on n'a jamais fait, qui va nous pousser à travailler. Des fois, on est dans la crainte, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on va faire. Alléluia. Nous allons organiser quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. C'est un défi pour nous. Mes frères, mes soeurs, moi et mon épouse, on a toujours vécu dans les défis. On a toujours vécu dans le risque. Dans les années 99, 2001, on a laissé notre appartement à Kiev. On est allé à Vladivostok. C'est à l'est de la Russie. En Sibérie, là encore. Bon, c'est pas Sibérie, c'est à l'est. Là, il fait moins 60 degrés. C'était un défi. On a laissé la maison, on a fermé la maison, on est parti là-bas. Et là-bas, tu te vois seul homme de couleur dans une ville de 1 500 000 habitants. Mes frères, mais c'est un défi. C'est un risque. Et je me rappelle qu'on a vécu là-bas. Les gens ont cru que j'étais... Un espion américain. Mais moi, je dis, mais quand même, un Américain, si les Américains, s'ils vont envoyer un espion, est-ce qu'ils vont envoyer vraiment une personne de couleur? Une personne remarquable comme ça. Ils vont envoyer un Russe. Ils vont envoyer une personne de leur pays. On nous filait. Les gens nous filaient. Les gens entendaient nos conversations téléphoniques. Parce que bon, parce que c'était une ville qui était fermée. C'est une ville, il y avait l'armée, une flotte, ouais. Une flotte russe, et c'était une ville qui était fermée. Et c'était un défi pour nous. On risquait notre vie. Pourquoi? Parce que quand tu marches comme ça dans la ville, mais les gens pouvaient te venir et t'agresser. Je me rappelle une fois, je suis allé seul en voiture dans une autre ville. J'étais seul. Je roulais. Et du coup, je vois, il y a la voiture, c'était trois voitures des policiers qui avec l'alarme. Waouh. Je dis, mais ça c'est grave, ça. Il y a une voiture qui m'a dépassé et les autres qui sont à côté de moi qui m'ont dit arrête. Oh. Moi je dis, qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête, ils viennent, ils prennent tous mes papiers, ils disent que suis-nous. Et quand je les suis jusqu'à la police, j'entre. Et quand on rentre dans le bureau, j'entends, ils disent, voilà, on l'a amené. Ah. Je comprends que non, entre eux, ils me cherchaient. On l'a emmené, voilà celui-là, on l'a emmené. Ah. Et ils m'ont posé des questions. Ils m'ont, qu'est-ce que tu fais? Pour qui tu travailles? Vous connaissez la KGB, c'est fort, hein? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Quel est le but de toi? Moi, j'ai expliqué, voilà le travail que nous faisons, tout ça. Mes frères, mes sœurs, c'est un défi. Amen. C'est ça qui nous a poussé à travailler. C'est un risque que nous avons pris pour le Seigneur. Et gloire à Dieu, Dieu était avec nous. Dieu est toujours avec nous. Amen. Et même le fait de quitter l'Ukraine et de venir ici, c'est un défi pour nous. Mes frères, vivez constamment dans des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent nous apportera seulement les mêmes résultats. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais ce qu'on va commencer à faire pour l'année, par exemple, l'année 2010 qui va commencer, si nous allons aujourd'hui commencer à faire des nouvelles choses, même si c'est difficile, même si on a vraiment des difficultés à entrer dans ces nouvelles, une nouvelle dimension, mes frères et mes sœurs, faites-le. Même si c'est difficile. Pourquoi? Parce que même pour nous, c'est difficile. C'était difficile pour venir, pour laisser tout et venir ici. C'était difficile. Mais d'un côté, on s'est dit, non, Seigneur, tu es avec nous. Conduis-nous. Amen. Donc, il faut toujours avoir des défis et faire quelque chose de nouveau. Et ça nous amènera ça nous donnera de nouveaux résultats. Amen. Gloire à Dieu. Je vais dire une phrase qui va vraiment, qui sera très, qui va vous aider peut-être dans votre vie. Mes frères et mes soeurs, la souffrance, le fait de souffrir quand vous travaillez, écoutez bien, le fait de souffrir quand vous travaillez est moins que de souffrir lorsque vous ne travaillez pas et que vous voyez après une déception. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas travaillé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, nous sommes à deux. Il y a une personne qui travaille, il souffre, il travaille pour voir un résultat. Sa souffrance sera moins que celui qui n'a pas travaillé. Et après quelque temps, il se voit déçu parce qu'il n'a pas de résultat. Sa souffrance sera encore pire que celui qui a travaillé. Ok, je reforme encore la phrase. La souffrance de la personne qui travaille est moins. Hein? Est moins. Que de n'avoir pas travaillé et rencontrer une déception dans sa vie. J'ai lu un livre. Et l'auteur de ce livre dit que non, c'est comme l'enfer. Quand tu vois que tu avais des capacités, que tu avais des opportunités et que tu ne les as pas utilisées, et tu te retrouves dans un moment de déception. Et cette déception est encore pire que celui qui a même souffert en travaillant. Amen. Donc, travailler, mes frères et sœurs, c'est beaucoup plus avantageux que ceux qui ne travaillent pas. Les gens peuvent vous dire aujourd'hui, ah, il travaille. Non, non, nous allons travailler. C'est pas obligé que les gens nous voient nos travail. Non. Nous travaillons. Et il y aura un moment, il y aura un temps où Dieu va nous faire sortir du sous-sol. Que Dieu va vraiment montrer le fruit de ce travail. Amen. Et nous allons le glorifier. Frères et sœurs, encore un point qui est très important. Utilisez vos opportunités. Utilisez vos opportunités. Aujourd'hui, nous avons des opportunités. Nous avons beaucoup d'opportunités. Et je vais dire une raison pourquoi les gens n'utilisent pas leurs opportunités. C'est parce que nos yeux sont beaucoup plus fixé vers le travail d'autrui ou bien vers la vie d'autrui que de sa vie même, de son ministère. Des fois, nos yeux sont beaucoup plus fixés vers ce que nous n'avons pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, on voit beaucoup plus, Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Ok, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Est-ce qu'on a déjà utilisé ce que nous avons? Des fois, nous avons beaucoup d'opportunités, mais nous ne les utilisons pas. Pourquoi? Parce que nous regardons seulement des choses que nous n'avons pas. Alors que quand nous voyons notre vie, frères et sœurs, nous avons beaucoup d'opportunités. Nous avons beaucoup de possibilités. Je me rappelle une fois, on était, à Kiev, on nous a invités et dans une salle, parce que l'église, on nourrit aussi les SDF. Et on est entré dans la salle, on les invite, ils écoutent la parole de Dieu, et puis on les nourrit. Et j'étais dans la salle, je regardais ces gens, et du coup il y a le Saint-Esprit qui est arrivé. C'était des SDF qui n'avaient pas quitté sans domicile précis. Et Dieu m'a dit, tu vois ces gens, est-ce que ces personnes, est-ce qu'ils ont rêvé à être dans cet état-là? Moi je dis non. Pourquoi tu murmures? Aujourd'hui, pourquoi tu ne peux pas me glorifier? C'est Dieu qui me parlait. Pourquoi tu ne peux pas me glorifier du fait que de ce que tu as aujourd'hui? Est-ce que c'est de ta force que tu es maintenant comme ça? Tu pouvais être à leur place. Parce que personne de ces SDF, avant même sa naissance, a voulu être SDF. Ce sont les circonstances qu'ils ont rencontrées dans leur vie. Peut-être que leurs parents ne leur ont pas donné cette opportunité. Mais nous aujourd'hui, nous sommes bien portants. Nous aujourd'hui, nous avons ces possibilités. Pourquoi murmurer? Pourquoi dire que, voilà, Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela? Mes frères, mes sœurs, quand Dieu a commencé à me parler, j'ai pleuré. Et depuis ce temps, je dis, Seigneur, pardonne-moi de mes murmures. Pardonne-moi du fait que j'ai toujours regardé à ce que je n'avais pas, que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Dieu m'a dit, tu as beaucoup de choses que je t'ai données. Aie cette reconnaissance-là. Amen. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'a pas, qui ne reconnaît pas, qui n'a pas de cette reconnaissance, ne peut pas voir les opportunités qui l'entourent. Et depuis ce jour-là, je cherche toujours à donner des valeurs à tout ce que j'ai aujourd'hui. Amen. Pourquoi? Parce que il n'y a personne qui veut être à l'avance, qui veut être un SDF. Non, non. Ce sont des circonstances de la vie peut-être qui a causé que ces gens se sont retrouvés dans cette situation-là. Donc, frères et sœurs, nous devons utiliser toutes nos opportunités, tout ce que Dieu nous a donné. Prier, Seigneur, ouvre mes yeux à voir quelles sont les opportunités que j'ai autour de moi. Quelles sont les opportunités que j'ai autour de moi? Mes frères et mes sœurs, ne fixons pas nos regards dans ce qui n'est pas bien. Amen. Dans ce qui ne marche pas. Fixons nos regards avec le minimum d'opportunités que Dieu nous donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne. Fixons nos regards dans ces choses. Regardons qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, avec ce que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec les possibilités que tu me donnes? Qu'est-ce que je peux faire? Nous sommes en France, ça fait 2 ans. Je m'excuse si je parle de notre... Parce que ça peut être un encouragement pour vous. Vous pouvez vous encourager, vous dire, oh, gloire à Dieu, non, il y a encore de l'espoir. Ça fait 2 ans. Et dans ces 2 ans, mes frères et sœurs, au début, j'ai ouvert une entreprise. Bon, disons, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que pour nous, c'était un défi. Il fallait faire un défi. Ça n'a pas marché, mais gloire à Dieu, mais ça nous a donné une expérience. Mais à part ça, il y a des associations. Il y a une association qu'on a ouvert, une autre association qu'on ouvre. Bon, bientôt, ça va. Donc, il y a des associations qu'on travaille pour ouvrir. Il y a des plans. Tout ça avec un minimum de possibilités. Tout ça avec un minimum de possibilités. Pourquoi? Parce que quand on aime le Seigneur, on ne va pas chercher beaucoup de grandes choses. On va utiliser le minimum de possibilités qu'on a pour faire de grandes choses. Amen. Et Dieu va nous aider. Donc, utilisez vos opportunités. Et le troisième, opportunité que nous avons, c'est tout ce qui nous entoure aujourd'hui. Priez, demandez à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux à tout ce que tu m'as déjà donné. Rentrez chez vous à la maison, cherchez, fouillez partout. Quelles sont les opportunités que j'ai aujourd'hui? Partout, cherchez partout. Amen. Pour qu'on ne se retrouve pas devant le Seigneur et le Seigneur nous dira, il va nous rappeler que non, voilà, je t'ai donné tout ça, mais qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai confié? Amen. Pour que devant lui, nous puissions dire, Seigneur, j'ai utilisé tout ce que tu m'as donné. Toutes les possibilités que tu m'as données, j'ai utilisé. Amen. Un point encore très important que je voudrais faire, et puis après on va faire une pause de 5 minutes, hein, juste de 5 minutes. C'est le point encore très important, c'est, mes frères et mes sœurs, ne vous satisfaisez jamais de ce que vous avez aujourd'hui. Là, vraiment, s'il y a une satisfaction qui vient, oh, on est satisfait. Ça, c'est un point qui risque de nous entraîner dans la chute. Pourquoi? Parce que la personne qui n'est pas satisfaite de ce qu'il voit aujourd'hui, de ce qu'il a aujourd'hui, il n'est pas satisfait, c'est-à-dire qu'il travaille pour la satisfaction, c'est-à-dire qu'il cherche. Il cherche comment combler cette insatisfaction. Mais celui qui est satisfait, ben, il est satisfait. Hein? Il n'a plus besoin de rien. C'est-à-dire que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. C'est-à-dire que tout ne va pas bien. Je rentre à la maison, je cherche les possibilités. Je cherche comment je peux faire pour améliorer. Comment je peux faire pour avancer. Comment je peux faire pour changer la situation. Comment je peux faire. Parce que quand on est satisfait, mes frères et mes sœurs, même de la part du Seigneur, on peut nous-mêmes, arrêter même nos bénédictions. Parce qu'on est satisfait. Alléluia, on est bien. Non, 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 non. Il faut toujours continuer. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je ne suis pas satisfait. Je veux voir. Je cherche. Je suis dans la recherche de nouvelles horizons. Je suis dans la recherche. Amen. Mon niveau spirituel n'est pas satisfaisant. N'est pas satisfaisant. Non, 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 non. Je veux encore beaucoup plus approfondir dans la prière, dans le jeûne. Je veux plus grandir, avoir de l'autorité spirituelle. Je ne suis pas satisfait de mes connaissances. Non, je veux encore beaucoup plus m'approfondir. Je ne suis pas satisfait de ce que je vois. Je veux encore beaucoup plus travailler. Et le dernier point, point qui est très important que je voulais comme conseil, c'est quand nous faisons quelque chose, lorsque nous faisons quelque chose, ne faites pas que vos exigences ne soient pas seulement pour atteindre la moyenne. La moyenne, c'est le moyen, hein, le milieu. Je ne sais pas si ça c'est contre la Bible, ce n'est pas biblique. Il y a des gens qui disent que non, nous on n'est pas grand, mais on n'est pas petit. Donc on veut juste un tout petit peu, ça va, ça me satisfait comme ça. Non, 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 ça ce n'est pas biblique, mes frères et sœurs. Amen. J'ai rencontré des gens qui disent que, ah non, 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 nous on n'est pas grand. Non, je ne veux pas beaucoup de connaissances. Juste tout ce que j'ai, un tout petit peu, ça va, ça me convient. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit dans Deutéronome. Il dit que je veux te faire la tête et non la queue. Qu'est-ce que ça veut dire la tête? La tête, c'est le top. C'est-à-dire la supériorité. Amen. C'est-à-dire que Dieu veut nous mettre, Dieu veut nous élever et nous avec une fausse humilité. Non, non, je veux un tout petit peu, un peu seulement ça va, un tout petit peu. Non, 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 mes frères et sœurs, Dieu veut élever son peuple. Amen. Pourquoi? Parce que des fois, il nous arrive d'avoir une fausse humilité, de vouloir seulement le moyen, de vouloir seulement un tout petit peu. Mais c'est un ennemi numéro un de l'homme. C'est un ennemi du progrès. Amen. C'est un grand ennemi. C'est un grand ennemi. Nous devons vouloir quelque chose de grand. Nous voulons vouloir, bien sûr, ça. Tout ça, c'est en fonction de notre foi. Avec ça, tout ça, c'est en fonction de la foi que j'ai. Amen. Mais nous devons toujours chercher le maximum. Nous devons faire. Amen. Pourquoi? Parce que la parole dit que je veux que vous soyez le premier et non le dernier, la tête et non la queue. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Donc nous allons nous arrêter et faire une pause. Une pause, bon, disons une pause, je dirais, de 10 minutes. Amen. C'est le point suivant. Nous avons vu premièrement qu'il faut planifier. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il faut travailler. Qu'il faut travailler. Et le troisième, c'est il faut que nous puissions vaincre la crainte. Vaincre la crainte. Amen. Mes frères, mes sœurs, il y a ce que nous appelons la crainte, ce qui nous paralyse, ce qui empêche l'œuvre de Dieu s'accroître. Il nous empêche de commencer même quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de prendre des risques. On a peur d'entreprendre quelque chose de nouveau. On a peur de changer. On a peur d'un changement. On a peur. On est dans la crainte. Et qu'est-ce qui se passe quand on a peur? On préfère rester dans la position là où on était habituellement. On préfère rester dans la sécurité parce que je connais cet endroit, parce que j'ai été hier, avant-hier, c'est un environnement qui est connu. Là où je n'ai pas peur, là où je suis bien, je suis en sécurité. Et on a peur d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et quand on a peur, frères et sœurs, ça nous freine et on ne peut pas commencer l'œuvre. On ne peut pas entreprendre l'œuvre. On ne peut pas faire quelque chose de nouveau. Frères et sœurs, nous devons mettre fin à la crainte. J'ai encore en russe, j'ai écrit un livre là, c'est en russe, mais... Ah, ces livres en russe là. J'ai vraiment vu que c'est les traduire directement en français. C'est ne permet pas que la crainte ravie ou bien vole votre rêve. Amen. Ça c'est en russe, mais bon, disons avec la grâce de Dieu, je crois que Dieu va nous aider à pouvoir le mettre en français. On a déjà commencé, donc petit à petit on le transmet en français. Donc ça parle de toutes sortes de craintes que la personne peut rencontrer dans sa vie. Et comment vaincre la crainte, la timidité. Pourquoi? Parce que le diable aujourd'hui freine, bloque beaucoup de personnes. Beaucoup de gens habiles, qui ont la potentialité, mais qui sont assis, qui ne peuvent pas faire quelque chose, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur d'entreprendre, ils ont peur d'avancer. Ils ont peur, ils ne peuvent pas faire. Et quand la personne a peur, il est paralysé. Il préfère rester. Non, je préfère me taire que d'avancer. Je préfère rester. Et plus on a peur, frères et sœurs, plus on reste dans la position là où on était. Je me rappelle, moi, auparavant, j'étais trop timide. Et même j'avais remarqué une chose que par exemple, dans un groupe de personnes, j'avais des idées. Il y avait des gens qui parlaient, il y avait des gens qui donnaient leur opinion. Et je sentais que Dieu mettait en moi beaucoup de choses que je pouvais partager. Et le fait que je donnais beaucoup plus, disons, j'étais tellement timide que je ne pouvais pas dire, je préférais me taire. Et les gens qui étaient autour de moi disaient des choses que moi je voulais dire. Je ne sais pas si vous est arrivé de moments comme ça là. Ça veut dire que lorsqu'on a peur et qu'on n'entreprend pas ce que Dieu nous dit de faire, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Dieu veut toujours que son œuvre avance. Si aujourd'hui, moi, on est timide, on laisse plus la crainte monter sur nous, nous dominer, mes frères, mes sœurs, Dieu suscitera un autre peuple, une autre personne, qui fera l'œuvre qu'il lui veut. C'est pour ça que nous devons mettre fin aujourd'hui à la crainte. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Amen. Il ne nous a pas donné un esprit de crainte. C'est-à-dire que la timidité, la crainte n'est pas des dieux. Il n'y a pas quelque chose de commun entre Dieu et la crainte. Non. Une seule crainte que nous devons avoir, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la seule crainte que nous devons avoir. Bien sûr, la nature humaine, des fois, on a peur. Pourquoi? Parce qu'on rencontre des fois des circonstances. Pourquoi? Parce qu'on est humain. Mais nous devons combattre et mettre fin à toutes sortes de craintes dans notre vie. Amen. Parce que la crainte aujourd'hui, on a des rêves, on a des plans, on a des projets. Mais quand le diable vient pour semer une crainte, on préfère rester en sécurité, on préfère se cacher que d'exprimer ce qu'on a dans notre cœur. Nous allons voir Romains 8. Le chapitre 8, le verset 15. La Bible dit ici, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mes frères et mes soeurs, nous n'avons pas reçu cet esprit. Il y a un esprit de servitude. Les gens qui vivent constamment dans la crainte, ils sont dans la servitude. Il y a cet esprit de servitude qui leur domine. Et ils ne peuvent pas avancer. Parce qu'il y a la crainte. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Amen. L'esprit d'adoption. Dieu nous a adoptés. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible dit que si Dieu est avec nous, mais qui peut être contre nous? Amen. Mes frères et mes soeurs, le diable ne peut rien nous faire. Si pour nous détruire, il pouvait nous détruire depuis très longtemps. Le diable, sa tactique, sa stratégie, c'est seulement nous intimider. Seulement nous intimider. Nous montrer que donc, c'est étrange, que c'est là une catastrophe, que tu ne peux pas, que tu es faible, que tu ne peux pas. Que ce que tu entreprends là, vraiment, ça ne va pas réussir. Et il y a différentes sortes de craintes. Il y a différentes sortes de craintes. Et tout ce que le diable envoie sème comme crainte dans notre vie, c'est seulement pour arrêter l'œuvre de Dieu d'un côté, et de l'autre côté, c'est pour nous arrêter, pour que nous puissions rien faire. Pour que nous puissions pas avancer. 2 Timothée. L'épître de 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité, non. La timidité n'est pas conforme au caractère de Dieu. Jésus n'était pas timide. Jésus était un vaillant, un combattant. Amen. Mes frères et mes soeurs, les enfants doivent toujours hériter le caractère de leur père. Amen. Dieu est notre père. Nous devons hériter son caractère, sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Nous devons recevoir son caractère. La Bible dit, ayez les sentiments que Jésus avait, les sentiments qu'il avait. Ce n'est pas la crainte, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la timidité. Qu'est-ce que les gens penseront? Qu'est-ce que les gens diront? Non, 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 non. Pourquoi? Parce que la crainte, c'est quand on prend beaucoup plus soin de soi. On veut beaucoup plus garder son image ou bien sa personnalité. On a peur. On veut beaucoup plus être en sécurité. On se préoccupe beaucoup plus de soi que de l'œuvre de Dieu. Amen. Mais la personne qui veut aujourd'hui mettre fin à toutes sortes de craintes, la personne aujourd'hui qui veut avancer, il doit mettre fin à toutes sortes de craintes dans sa vie. Avancer. Amen. Et je dirais encore, je veux encore ajouter une chose, que frères et sœurs, on doit savoir que c'est tout le monde qui a une crainte. Même les gens aujourd'hui qui ont atteint quelque chose, qui ont atteint un niveau, ils ont toujours eu une crainte. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Ils ont combattu cette crainte-là. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas humiliés, ils n'ont pas dit non, 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 oh, je peur, je laisse tomber, non, je ne peux pas faire. Non, ils ont dit que je n'ai rien à perdre. J'irai. Je vais. Je prends les risques. Amen. Et ils sont partis. Ils ont combattu leur crainte. Je vous disais au début que j'étais tellement timide que je ne pouvais même pas parler avec les gens de sexe opposé, avec des sœurs. Pour moi, c'était la catastrophe, c'était fini. Voilà le niveau de crainte. C'était une... Quand tu as peur de parler avec une personne de notre sexe, une sœur ou bien... Tu as peur, tu trembles. Et vous pouvez sentir en vous des grandes capacités. Mais quand il y a la crainte, frères et sœurs, ça va vous dominer. Ça va toujours être comme une pression dans votre vie. Ça va toujours vous freiner. Ça va toujours vous bloquer les portes, fermer les portes. Que Dieu nous aide, que nous ne puissions pas rater ou bien louper ce que Dieu a pour notre vie. Amen. Dans le verset qu'on a vu, c'est dans Matthieu 25, on va voir. Matthieu 25, c'est quand Dieu, le maître a donné les talents à ses ouvriers. Le chapitre 25, le verset 25, le troisième ouvrier que j'ai et tu es méchant et paresseux. La Bible dit ici, le maître dit, c'est l'autre là qui dit que non, voilà, j'ai eu peur et je suis allé cacher. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce qu'il était, conduit par la crainte. La peur l'avait tellement que tout ce qu'il faisait, c'était dans la peur. Pourquoi? Parce que s'il n'avait pas peur, il n'allait pas aller cacher ce talent. Il avait des opportunités, il avait toutes les possibilités. Dieu l'a donné le vouloir et le faire. Mais il a eu peur. C'est-à-dire que la peur avait le dessus de toutes ses qualités. Dans tout son être, il y avait la crainte. Et comme il avait eu peur, il est allé cacher. Mes frères et mes sœurs, nos églises aujourd'hui sont remplies de personnes de qualité, de personnes qui ont des très bonnes qualités, qui ont des potentialités. Mais ce qui leur freine, l'une des raisons des choses qui leur freinent, c'est la peur. La peur des gens dans l'échec, c'est ça qui bloque beaucoup des gens de rêve. C'est ça qui freine, qui enterre beaucoup de rêves, les gens de rêves, mais ils ne peuvent pas l'accomplir. Nous allons voir quelques sortes de craintes dans la vie, dans nos vies. Amen. Vous allez savoir que la crainte, c'est l'un des ennemis. C'est l'un des ennemis de l'homme. Les craintes que nous allons voir aujourd'hui, par exemple, il y a la crainte devant une responsabilité. Les gens ont peur de prendre la responsabilité. Et j'ai même rencontré des jeunes hommes qui ont peur de se marier. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une responsabilité. Ils ont peur de venir proposer à des sœurs. Il y a des gens qui préfèrent vivre dans le concubinage que de vivre dans le mariage. Pourquoi? Parce que dans le concubinage, tu n'as aucune responsabilité. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es plus là. Mais alors que le mariage, c'est un engagement. C'est un engagement. Et ils ont peur. C'est-à-dire qu'on préfère ne pas nous engager parce qu'on a peur. Mes frères et mes soeurs, la peur, elle conduit la personne à ne pas prendre ses responsabilités. Dieu a donné à chacun de nous une certaine responsabilité. Mais quand on a peur, on ne s'acquitte pas de nos responsabilités. On préfère que quelqu'un d'autre va. Et vas-y, vas-y. Je me rappelle, il y a une sœur notre église, une sœur que je voulais vraiment qu'elle puisse servir le Seigneur. Une fois, quand j'ai dit que non, tu es une leader, que tu peux faire quelque chose, mais la sœur s'est très mal sentie. Pourquoi? Parce que elle avait peur. Il y avait la crainte qui était là. Et la peur, c'est une porte d'entrée c'est une porte d'entrée qui nous permet pas d'entrer dans une nouvelle dimension dans le Seigneur. C'est quelque chose qui nous freine. Quand on voit dans le livre de 1 Samuel 17, 38, 40, c'est l'histoire de Saoul, l'histoire de Saul. Il avait peur d'aller combattre d'aller combattre Goliath. Il était roi. Mes frères, mais c'est être roi, avoir un titre, ne veut pas dire être responsable. C'est-à-dire, il était roi. Il avait toutes les armes entre ses mains. Il avait toute la force. Mais pour aller se combattre, prendre ses responsabilités, il n'a pas voulu parce qu'il avait peur. Il avait peur. Il a dit, mais comment moi je vais aller me combattre? Et ce qui est encore pire, quand David est venu chez Saul, David a dit que non, moi j'irai. Et Saul, il a pris encore ses armes, son habit, sa responsabilité, et il a donné à David. Voilà, c'est ce qui est encore pire. Quand le responsable a peur, mes frères et sœurs, c'est tout le monde qui est dans la crainte. Mes frères et sœurs, si nous sommes aujourd'hui des responsables, même si aujourd'hui nous rencontrons des circonstances comme ça, même si tu as peur, mais ne faut jamais manifester ta crainte. Amen. Il ne faut jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où les gens regardent. Comment va réagir mon responsable? Comment il va réagir? Nous sommes retrouvés dans cette situation. Nous, on ne sait pas. Il y a la panique. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si lui-même, le responsable, est dans la panique, frère et sœur, ça c'est fini. Ça, c'est fini. Même si vous avez la panique à l'intérieur, mes frères et sœurs, faites tout pour que les gens ne remarquent pas votre panique. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où on tombe dans une panique, mais ayez confiance en Dieu. Alléluia. Ayez confiance en Dieu. Que si Dieu m'a placé ici, ce n'est pas pour que je sois paniqué. Ici, on voit dans ce Saul il a panique, il a eu peur, il a donné son arme. Vas-y, David, vas-y, prends, vas-y, va combattre. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas acquitté de ses responsabilités. Je vous ai dit au début, je vous ai dit que dans la responsabilité, il y a des obligations et il y a des privilèges. Il y a des privilèges. Les gens aujourd'hui regardent beaucoup plus dans les privilèges que dans les obligations. Quand je suis responsable, en tout cas, il y a des devoirs, il y a des choses que je dois faire parce que je suis responsable. Il y a un prix à payer comme responsable. Amen. Pourquoi? Parce qu'on peut traverser des moments difficiles. Il y a des risques que je dois prendre parce que je suis responsable. Mais il faut savoir que le prix qu'on paye, qu'on entend, on est responsable. Ce prix n'est pas plus que les privilèges que je recevrai. Pourquoi? Parce que quand on voit même dans cette situation, on voit David qui allait combattre, qui a gagné. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les femmes ont commencé à chanter, non? Les femmes ont chanté. On dit que donc, voilà, David a tué 10 000 et Saul a tué combien? 1 000. Les femmes ont commencé à chanter. David a eu quoi? La popularité. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix du sang-froid. Il n'a pas eu peur. Il a risqué sa vie. Des fois, on se retrouve dans des situations où on croit que c'est fini. Ma vie est finie. Frères et sœurs, continuez. Allez. Amen. Allez-y, allez de l'avant. Que même s'il y a, vous avez peur, en tout cas, nous allons continuer le chemin. Pourquoi? Parce que tout le monde que nous voyons aujourd'hui, qui ont atteint quelque chose, mes frères, mes soeurs, posez-le la question, qu'il soit sincère. Il y a eu une crainte là. Pourquoi? Parce que comme humain, on a des fois, on a peur. Amen. Mais il ne faut pas le permettre, il ne faut pas permettre que cette humilité puisse avoir le dessus de votre vie. Amen. Il ne faut pas le permettre. Parce que si elle a le dessus dans votre vie, vous allez avoir peur et cacher ce talent. Et vous n'allez pas l'utiliser. Cacher disons, le désir, le vouloir, ce que Dieu a placé dans vos cœurs. Je parle avec quelques-uns ici. Il y a même un moment où vous dites que non, voilà, je ne veux pas que Dieu puisse utiliser quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois là, il y a la peur qui nous freine. La peur de prendre la responsabilité. Frère et soeur, nous devons prendre la responsabilité. Amen. Et cette histoire avec Saul et David nous montre que si aujourd'hui nous avons confiance en Dieu, et Dieu, il sera avec nous. Si nous avons l'assurance de notre Seigneur, nous pouvons aller plus loin et accomplir notre ministère. Et ne pas avoir peur de tout ce que l'ennemi peut s'aimer dans notre vie. Dieu cherche aujourd'hui des hommes responsables. Dieu cherche des personnes qui prendront la responsabilité de la ville, la responsabilité du pays, la responsabilité des âmes. Pourquoi? Parce que même dans la Bible, dans Ésaïe 6, on voit comme Dieu dit dans sa parole, il dit que qui enverrai-je? Mais c'est une question que Dieu pose aujourd'hui, la question. Mais qui enverrai-je? Mais qui prendra la responsabilité de mourir pour soi-même? Mais qui prendra aujourd'hui la responsabilité d'aller combattre ces Goliath? Mais qui prendra la responsabilité? Mes frères et sœurs, je veux dire, en Ukraine, notre pasteur, il y avait un moment où il a pris la responsabilité du pays. Il a prêché, une fois il prêchait, il a dit, je prends. Il a dit, si les Ukrainiens ne veulent pas prendre la responsabilité, moi je prends la responsabilité du pays. Ça c'était une proclamation qui, on était tous étonnés. Pourquoi? Parce que mes frères, mais c'est quand on prend une responsabilité comme ça, il faut être prêt à rencontrer des épreuves. Peut-être des épreuves il faut être prêt. Mais j'ai compris que ça, c'était vraiment la foi qu'il avait. C'est la foi qu'il avait. Bien sûr, il y a des épreuves qu'il a rencontrées, mais à part ces épreuves, il y a des privilèges du fait qu'il a pris la responsabilité. Amen. Et après quelques temps, on a vu la jalousie des Ukrainiens, la jalousie. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas prendre la responsabilité. C'est pareil avec Saul. Saul n'a pas pris cette responsabilité. Il l'a donné à David parce qu'il avait peur. Il l'a donné à David, et David qui a risqué sa vie, il a eu cette popularité-là. Amen. Frères et sœurs, nous devons nous acquitter de nos responsabilités. Amen. Et mettre fin à la crainte, à la peur. Des fois, on a peur des médias. Oh, qu'est-ce que les médias vont dire? Oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils diront que nous sommes une secte. Ils diront des choses. Ils vont écrire contre nous. En tout cas, c'est mieux, c'est bien que les gens écrivent contre nous. Il ne faut pas que nous ayons peur de ça. Amen. Si aujourd'hui nous sommes bien placés devant Dieu, pourquoi? Parce que peut-être demain vous allez rencontrer ça. Mais si aujourd'hui nous avons de bonnes relations avec Dieu, nous savons que je ne suis pas une secte. Si les gens écrivent comme ça, qu'ils écrivent. Pourquoi? Parce que je veux dire une chose, que les médias aujourd'hui en Ukraine nous a aidés du fait que pour l'expansion de l'église, ça a aidé. Disons, ça a été une publicité. Les gens ont payé pour parler contre nous, et plus ils parlaient contre nous, plus les gens étaient intéressés de savoir, mais pourquoi on parle d'eux comme ça, hein? Nous allons voir vraiment qu'est-ce qui se passe là-bas. Et quand les gens venaient pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, ils recevaient le Seigneur. Ils acceptaient le Seigneur. Ils ne pouvaient pas résister à la présence de Dieu. Quand ils venaient dans le culte pour voir, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, ah, ils tombaient dans ce bain de l'esprit. Et il recevait le Seigneur. Amen. C'est-à-dire qu'il ne faut, pas que nous puissions nous intimider, avoir peur. Pourquoi? Parce que les gens ne diront pas toujours de bonnes choses. Et la Bible dit même, malheur à vous si vous allez, si les gens disent toujours de bonnes choses. Les gens ne diront pas toujours de bonnes choses. Qu'ils disent de mauvaises choses. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Mais si moi j'ai de bonnes relations avec Dieu, peu importe ce que l'autre peut dire, peu importe ce qu'ils peuvent écrire. Amen. Donc nous ne devons pas avoir peur des responsabilités. Pourquoi? Parce que ça nous freine. Ça nous freine. Et dans la Bible, toutes les personnes qu'on voit dans la Bible qui ont eu peur, qui ont eu la crainte, ils n'ont pas reçu cette bénédiction de Dieu. Dans Nombre 10, du 13, Nombre 13, on a vu quand, le peuple israélien, les espions sont allés, les 10 espions sont allés pour voir la terre promise. Ils ont dit, c'est une terre, oh, elle est chouette. C'est une très bonne terre là où coule le lait. Et là, ça coule le lait et le miel. Mais on a rencontré des géants. On a rencontré des grands. On a rencontré vraiment des ennemis. Et Caleb a dit non, moi je serai là-bas. Et les autres ont dit que non, on s'est vu nous comme des sauterelles devant ces gens. Mon frère, mais comment toi tu te vois devant ton ennemi? Comme une sauterelle? Ou bien comme une personne combattant? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait confiance en Dieu. Ils se sont regardés eux-mêmes. Bien sûr, quand on se voit des fois devant nos ennemis, on est comme des sauterelles. Mais quand David est allé se combattre contre Goliath, bien sûr, physiquement, c'était incomparable. Mais il y avait, derrière David, il y avait un Dieu géant. Il y avait un grand Dieu. Alléluia. David a dit que je vais contre toi au nom de Dieu, Savaoth. Au nom du Tout-Puissant. Alléluia. Peu importe l'intimidation du diable, frères et sœurs, nous devons faire confiance en notre Seigneur. Amen. Peu importe tout ce que le diable fera contre nous, Seigneur, sois avec moi. Le diable cherche à me bloquer, à m'intimider avec des idées, avec des paroles. Non, Seigneur. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur fera tout pour que tu entendes des bonnes paroles. Alléluia. Même si tu as peur. Gédéon avait peur. Il avait peur d'aller. Mais Dieu a permis que Gédéon entende les choses que l'ennemi disait de lui. L'ennemi disait que non, oh, il est grand, il est fort. Oh. Et quand Gédéon a entendu ça, ça l'a encouragé. Alléluia. Dieu même fera tout pour que tu puisses entendre des choses qui vont t'encourager, qui vont te donner la force d'avancer. Amen. Mes frères, mes soeurs, la crainte, c'est un fléau qu'il faut mettre fin dans notre vie personnelle et dans la vie des personnes qui nous entourent. Mettre fin à la crainte, de la responsabilité. Les gens ne veulent pas s'acquitter de leur responsabilité parce qu'ils ont peur. Ils préfèrent que les autres passent. Non. Prenons la responsabilité. Amen. Ok. Deuxièmement, quelle est la crainte que nous rencontrons? Deuxièmement, il y a la crainte. Attendez, je veux voir. Alléluia. Nous avons la crainte devant des échecs. On a peur. Oh, si je commence, peut-être il y aura des échecs. Oh là là. Non. Je préfère ne pas faire que de faire et de faire des erreurs, des échecs. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous donne le droit de faire des erreurs. Amen. de tomber même dans les échecs. Quand on voit la vie de Pierre, Dieu, Jésus savait qu'il allait le renier 3 fois. C'est une faute qu'il a fait, qu'il a commis. Jésus savait que non, Pierre va le renier. Mais Jésus l'a donné l'occasion de pouvoir tomber dans l'erreur. Et Pierre est tombé dans l'erreur, il a renié Jésus 3 fois. Bien sûr, c'était vraiment 3 fois il a renié Jésus. C'était une douleur là pour Pierre. Il a pleuré. Il a dit, mais comment je pouvais faire ça? Il est tombé. Des fois, Dieu va nous permettre de tomber. Dieu va nous permettre de tomber dans les erreurs. Mais frère, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour que nous puissions, avoir de l'expérience de cette erreur-là et de faire mieux dans l'avenir. Amen. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur beaucoup plus pour mes erreurs, parce que ça me donne encore beaucoup plus d'expérience. Amen. Pour les fautes que j'ai faites. Bien sûr, je ne les répète plus. Je m'efforce de ne plus les répéter. Pourquoi? Parce que ceux qui font des erreurs aujourd'hui, c'est seulement ceux qui sont en activité. Chercher une personne qui est sans activité, sans erreur. Chercher une personne qui est sans faute, sans erreur, c'est une personne qui est paresseux, qui est sans activité. Amen. Ça, c'est vrai. Mais une personne qui a des erreurs, qui a des fautes, qui tombe, mais qui se relève, il tombe, il se relève, oh, il est toujours en activité. C'est une personne que Dieu veut avoir, que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il travaille, il est constamment dans le travail, il est constamment dans le travail, il avance. Oui, ça ne marche pas aujourd'hui, mais demain ça marchera. Oui, je ne vois pas aujourd'hui, mais demain tout va marcher. Oui, Seigneur Jésus, je tombe aujourd'hui, mais demain je vais me relever. Il tombe pas seulement pour rester tombé, mais il tombe pour se relever et avancer. Amen. Et cette personne, Dieu respecte des gens comme ça. Mais ceux qui ne font pas des erreurs, ils sont là à observer, sans action. Ils sont des observateurs et des commentateurs. Ils ne font pas des erreurs. Ils sont sans faute, mais sans expérience. Sans expérience. Amen. Des fois, il y a des erreurs que nous traversons. Des fois, nous traversons des moments de nous tombons. C'est pour que nous puissions instruire les gens qui viennent. Que mes frères et mes sœurs, fais attention. Là, il y a un trou. Tu risques de tomber. Amen. Pour instruire, pour aider, pour enseigner les autres. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, en tout cas, nous ne devons pas avoir peur devant des erreurs, devant des échecs. J'ai encore une sœur qui me dit, pasteur, je vais faire quelque chose. Mais si ça ne marche pas, mais fais quelque chose. Amen. Parce que tu le feras, tu auras une expérience. Mais pourquoi penser que ça ne marchera pas? Posons-nous la question. Pourquoi je veux entreprendre quelque chose? Pourquoi directement penser que ça ne va pas marcher? Si je n'ai pas encore commencé cette affaire. Donc on peut aussi penser que ça va marcher. Amen. Donc pensons, soyons positifs. Que Seigneur, je sais que ce que j'entreprends va marcher. Amen. Ça doit marcher. Alléluia. Donc ça c'est sans la crainte devant des erreurs, devant des fautes, devant des échecs. Il y a une crainte, c'est la crainte d'être blessé ou rejeté. La crainte d'être blessé ou rejeté. Et des fois, cette crainte vient pour les gens qui ont traversé un moment difficile dans leur ministère, par exemple. Vous avez rencontré le rejet, vous avez rencontré vraiment les gens qui vous ont blessé. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez, vous construisez un mur autour de vous. Et vous ne laissez pas passer les gens. Vous ne laissez pas accès aux gens à votre vie. Vous avez peur. Vous commencez à mépriser les gens. Pourquoi? Parce que vous avez peur que vous avez rencontré des rejets, vous avez rencontré des blessures, et vous avez peur, vous dites, non, je préfère ne plus servir parce que ces gens risquent de me rejeter. Parce que j'ai rencontré l'ingratitude, parce que j'ai rencontré, les gens m'ont abandonné quand j'avais besoin de l'aide. Les gens m'ont abandonné quand j'étais dans le besoin. Et quand ça arrive, il y a une crainte. On n'a plus confiance aux gens. Et on se laisse isoler. Il y a un mur autour de nous. Non, frères et sœurs. Comme serviteurs de Dieu, quel que soit le rejet que nous avons reconnu, demandons au Seigneur que Dieu puisse nous guérir de toutes les blessures intérieures. Amen. Mes frères et mes sœurs, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment forts dans la parole, qui ont l'appel d'être de prédicateurs, de pasteurs, mais qui ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré le rejet et les blessures intérieures, l'amertume. Et ils ne peuvent pas aujourd'hui continuer à servir parce qu'ils ont peur. Que non, oh, je vais servir les gens vont me rejeter, ils vont m'abandonner, ils vont m'utiliser. Bien sûr, ce sont des choses qu'on rencontre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les gens sont imparfaits. Nul n'est parfait. Amen. Jésus a rencontré ça dans son ministère. Les gens qui l'avaient abandonné. Et quand les gens ont abandonné, il a demandé à ses disciples, est-ce que vous ne voulez pas même abandonner? Ils ont dit, mais Jésus, tu as la parole de vie, où est-ce que nous irons? Oui, nous allons rencontrer des gens comme ça. Les gens qui vont claquer la porte, qui diront, ah! Les gens qui vous avaient fait du bien, et demain ils vont encore vous critiquer. Mais vous devez savoir que comme responsable, les critiques, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que tout le monde ne va pas partager votre opinion ou bien votre façon d'être. Il y aura les gens qui auront une autre opinion. Amen. Donc même si nous rencontrons le rejet, même si nous rencontrons l'abandon, même si nous rencontrons des blessures, mes frères et mes sœurs, nous devons permettre à Dieu de nous guérir et continuer à servir son peuple. Amen. De continuer à servir son peuple. Parce que nous pouvons aujourd'hui, perdre l'appel que Dieu a pour notre vie. Faute de crainte. Parce qu'on a peur que les gens puissent nous apporter une blessure. Amen. Nous allons voir encore une autre sorte de crainte. Il y a la crainte devant l'inconnu. La crainte devant l'inconnu. On ne connaît, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en 2010. On ne sait pas, mais Seigneur, mais comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que je vais commencer? Qu'est-ce qui va se passer, Seigneur? Mais je ne sais pas. Devant l'inconnu. Mes frères, mes sœurs, dans Hébreux 11, 8, est-ce qu'on peut voir Hébreux 11, 8? La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, c'était une place inconnue pour Abraham. Mais Dieu l'a dit, toi et ta famille, vas-y dans une terre inconnue. Vas-y, une terre que je te donne en possession. Va. Donc, c'était quelque chose d'inconnu devant lui. Mais frère, il y aura des moments où nous allons rencontrer des choses inconnues. Et ce sont des moments que Dieu veut activer notre foi. Comment tu vas te comporter? Quelle sera ta réaction devant des choses inconnues? Des choses que tu ne connais pas. Seigneur, je ne sais pas là où je vais. Seigneur, nous ne savons pas. C'est une chose nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce que c'est plus facile aujourd'hui de faire des choses qu'on est toujours habitué à faire. On est habitué à faire ceci, on est habitué à faire cela, mais essaye de changer et d'entrer dans une nouvelle dimension, dans des choses inconnues. Ça cause toujours des problèmes. Amen. Mais mes frères, mes soeurs, ça cause des problèmes. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ça peut être difficile. Pourquoi? Parce que vous quittez un environnement connu pour aller dans un monde inconnu. Continuez votre chemin. Amen. Continuez votre chemin. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle des exemples d'Abraham. C'est pour que nous puissions savoir qu'il y aura des moments où Dieu va nous appeler à aller dans des endroits inconnus qu'on ne connaît pas. À commencer des ministères inconnus. À commencer des œuvres inconnues. Mais pour le bien-être de notre ministère, ça vaut la peine de le faire. Amen. Ça vaut la peine. Donc c'est la peur devant, la crainte devant l'inconnu. Pourquoi? Parce que, mes frères et mes soeurs, la foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce sont des choses invisibles. Pourquoi? Parce qu'une chose que je vois déjà, je n'ai pas besoin de foi. Parce que je le vois, parce qu'elle est palpable. Amen. Mais la foi, ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Donc, le fait de vivre, nous, comme chrétiens, c'est nous vivons dans un monde inconnu. Amen. Même le fait aujourd'hui d'ouvrir, de faire un ministère, c'est quelque chose d'inconnu. Je fais ça par la foi. Et la Bible dit que le juste ne vivra que par la foi. Seulement par la foi que vivra le juste. Amen. Donc, soyons prêts à conquérir des terres inconnues. Amen. Des terres que nous ne connaissons pas. Des terres que nous ne savons pas. Nous ne savons pas, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer demain. Des terres inconnues. Il y a la crainte devant la maladie, la crainte devant la mort, la crainte devant l'âge avancé. Les gens ont peur de l'âge avancé. Oh! Surtout les soeurs qui ne sont pas encore mariées. Ils vont dire, parce qu'en Ukraine, je ne sais pas ici en France, en Ukraine, quand une fille a déjà 20 ans, elle a peur. 20 ans, 21 ans, 22 ans, ah, ils ont peur. Je suis vieille, je risque de rater. Oui, ils ont peur de l'âge avancé. Mais alors l'âge de 20 ans, 21 ans, c'est une fille qui n'a pas encore atteint cette maturité-là, d'être maman. Mais à cet âge-là, les gens ont peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore le mariage, ils ont peur et ils cherchent à se marier disant précipitamment. Quoi. Il y a une crainte quand l'âge avance, on a peur. Non mes frères, plus on avance de l'âge, plus on a la sagesse. Amen. Plus on a la sagesse. Il y a la crainte devant les malades, la maladie. Il y a de ces choses, mes frères et mes soeurs, que le diable vient inculquer dans notre pensée. J'ai rencontré des gens qui étaient en bonne santé, mais le fait d'avoir peur du cancer, ils avaient peur que, oh, peut-être que j'ai le cancer. Pourquoi? Parce que c'était une pensée que le diable inculquait chaque fois, alors qu'ils étaient en bonne santé. Donc ces gens sont morts plus de la peur que de la maladie même. Parce qu'ils ont eu peur. Il y a la crainte. Non, mes frères, mes soeurs, nous sommes en bonne santé. Amen. Il y a des membres, des gens qui ont peur, qui ont peur. Non, non, non. Ils sont en bonne santé. Ils sont bien dans le Seigneur. Amen. Il y a la peur, la crainte devant... devant la maladie, non, on a dit ça. Et devant la mort aussi. Les gens ont peur de la mort. C'est aussi une sorte de crainte, une sorte de peur. Et il y a encore une crainte, c'est la crainte lorsque Dieu se tait. Le silence de Dieu. C'est-à-dire que quand on cherche, on demande quelque chose et on ne reçoit pas, on a peur. On ne reçoit pas. On demande quelque chose, on prie pour quelque chose, on ne reçoit pas. Et des fois, on est couvert de crainte. Pourquoi le Seigneur ne répond pas? Pourquoi le Seigneur ne répond pas? Mes frères, mais c'est quand on traverse le silence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Mais il faut savoir que Dieu a ses objectifs qu'il doit atteindre. Si c'était, c'est parce que peut-être que moi, j'attends sa réaction comme moi-même je le vois. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que j'attends que Dieu me réponde comme je le perçois moi. Alors que Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées. Amen. Ses projets ne sont pas nos projets. Donc il a ses pensées à lui. Lui, il connaît le moment opportun. Le moment opportun pour me répondre. Amen. Lorsque nous traversons ce moment de silence, frères et sœurs, continuons à avoir confiance en Dieu. Amen. Continuons à avoir confiance en lui. C'est lui qui va nous répondre. Amen. Je me rappelle un moment où l'église, on traversait des moments difficiles. On traversait il y avait un moment de, comment on appelle ça, de persécution. Et le pasteur dit, Seigneur, en tout cas, non, le pasteur a prié contre l'œuvre du diable. Mais il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de solution. Et il a commencé à prier, Seigneur, que ce problème continue. Que ce problème continue, mais que toi, que tes objectifs puissent atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu a des objectifs qu'il veut atteindre dans nos vies. Il y a des choses que Dieu veut vraiment changer dans notre vie. Et des fois, son silence, c'est favorable. Je me rappelle une fois en Ukraine, j'ai reçu, une invitation. J'ai reçu un billet pour aller continuer mes études aux États-Unis. Quand j'ai reçu ça, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. J'ai dit, bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Et j'ai commencé à faire les documents, j'ai mon passeport, j'ai tout. Je suis allé me présenter à l'ambassade des États-Unis, ils ont refusé. Ah, moi je dis, il faut que je continue. Et dans la même période, quand je continuais à faire les démarches, j'ai perdu tous mes documents, mes papiers, tout. J'ai perdu tout. J'étais dans le Seigneur. Je priais, jeûne, prière, rien. Ah, rien. Silence complet. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai traversé le silence de Dieu. Donc comme si c'était Dieu ne parlait pas. Comme si mes prières allaient seulement au plafond et ça descendait. Les prières partent au plafond et ça descend. Donc il n'y avait pas un changement. Il n'y avait pas... rien ne changeait. Mais mes frères et mes soeurs, aujourd'hui je glorifie Dieu pour ce moment. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a atteint son objectif. Je me rappelle, si j'allais aux États-Unis, je n'allais pas être la personne dont je suis aujourd'hui. J'allais tomber en... parce que je n'étais pas encore fort dans la foi. Je n'étais pas encore fort, je n'étais pas encore dans la foi. Et Dieu a vu, il a dit non. Ce petit-là, il faut que je fasse quelque chose là. Il faut que je mette quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai mes objectifs que je dois atteindre dans sa vie. C'est pour ça, mes frères et mes soeurs, le silence de Dieu, il ne faut pas, quand on traverse, il ne faut pas se précipiter à murmurer, à dire, mais Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Non. Dieu a son plan. Dieu a ses objectifs qu'il doit atteindre, qu'il veut vraiment voir dans nos vies. Amen. Je glorifie Dieu, je dis, mais Seigneur, merci beaucoup, je te remercie. Pourquoi? Parce que quand j'ai perdu tous mes documents, quand j'ai perdu tout, en tout cas, j'étais à Kiev, je vivais, à l'époque là, je travaillais dans une organisation chrétienne. Je travaillais dans une organisation chrétienne. Donc là, il y avait la prière, il y avait tout, et j'ai perdu tout. Et je continue à prier, et à un moment donné, Dieu me montre la femme de ma vie. Donc il se fait que si j'allais même aux États-Unis, je n'allais pas marier mon épouse. Alléluia. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà. Des fois, on ne peut pas comprendre sa pensée. Des fois, on ne peut pas comprendre son plan. Quand je l'ai rencontré, Dieu m'a dit, voilà ta solution. Je dis, non. Voilà, c'est ta solution. Et quand j'ai rencontré mon épouse, quand je l'ai dit, je l'ai fait la proposition, tout ça, après quelques temps, elle m'a dit, Robert, tu sais que quand j'étais vu pour la première fois, Dieu m'a dit, voilà, c'est ton mari. Mais je ne disais rien. Je me suis tu. Je n'ai rien dit. Et quand tu faisais tes projets pour aller aux États-Unis, moi, je disais à Dieu, Dieu, si c'est ton projet, qu'il va aux États-Unis, qu'il aille. si tu veux qu'il aille aux États-Unis. Donc, elle était calme. Elle ne m'a même pas montré que, voilà, pourquoi? Parce qu'il y a des fois des gens, des filles, quand ils ont une révélation, ils commencent à tourner devant toi là pour que tu fasses la cour, ou bien, la proposition, tout ça. Mais elle n'a rien laissé, elle était calme. Moi, je ne l'ai même pas remarqué. Elle était vraiment, elle n'était pas remarquable, tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan. Dieu a un plan. Il tient tout en contrôle. Amen. Des fois, on peut passer, traverser ce moment de silence, ayant confiance en notre Seigneur Jésus. Amen. Ayant confiance en lui. Parce que c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Amen. Mes frères, mes soeurs, comment est-ce que nous devons vaincre la crainte? Comment vaincre la crainte? Alléluia. Mais avant de dire comment vaincre la crainte, mes frères et mes soeurs, la crainte peut être aussi une façon de nous stimuler pour avancer. Pourquoi? Parce que Dieu peut utiliser ça pour que nous puissions avancer. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Jonas que Dieu a envoyé pour aller prêcher à Ninive. Jonas a refusé. Dieu l'a dit, vas-y, va prêcher. Il a refusé. Et il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. Mais c'était un moment difficile, il ne savait pas comment quoi faire. Et Jonas s'est souvenu que Dieu existe. Donc c'était un moment, il a eu peur. Et ce moment-là, Dieu a utilisé ça pour les stimuler à avancer. Et après, il a compris que non, en tout cas, il faut que je fasse le travail pour le Seigneur. Amen. Comment vaincre la crainte? Comment vaincre la crainte? Comment vaincre la crainte? Premièrement, frères et sœurs, comment vaincre la crainte? Mes frères et sœurs, nous devons remplir notre cœur d'amour. Remplir notre cœur d'amour. Pourquoi? Parce que dans la Bible, c'est dans 2 Timothée 1, 17, la Bible dit, nous allons lire, 2 Timothée. 2 Timothée 1, 17, nous allons terminer bientôt, Non, 1, 7, pardon. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mes frères et mes sœurs, devons remplir notre cœur d'amour. Remplir notre cœur d'amour. Il y a encore une sorte de crainte que j'ai pas énumérée ici. C'est la crainte devant l'homme. On a des fois, on a peur des hommes. Et la Bible dit que la crainte devant l'homme, ça ne permet pas la personne à s'épanouir. Je ne sais pas, est-ce que vous avez peur de quelqu'un? Si vous avez peur de quelqu'un, vous allez remarquer que plus vous avez peur d'une personne, moins vous avez l'amour à cette personne-là. Si vous avez peur d'une personne, par exemple, vous avez la crainte d'un homme ou bien d'une femme ou bien d'une personne qui a plus d'autorité, vous avez peur de cette personne. Et cette crainte vient parce qu'on n'a pas d'amour. Et plus vous avez d'amour pour la personne, pourquoi? Parce que l'amour, elle détruit toute crainte. Quand notre cœur est rempli d'amour, alléluia, on ne peut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que la Bible dit même, je regarde aux yeux mes ennemis avec amour. C'est-à-dire, je n'ai pas peur de mes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour qui est rempli dans mon cœur. Même les gens qui veulent me faire du mal, même les gens qui me critiquent, je les aime. Même mes ennemis, je les aime. Je prie pour eux. Amen. Et plus mon cœur est rempli d'amour, plus je n'ai pas peur. Parce que l'amour a une force qui détruit toutes sortes de craintes. Amen. Parce que l'amour, quand on a l'amour, elle détruit toutes sortes de craintes. Il y a même dans la Bible, il y a une place, il faut que je cherche, je ne m'appelle plus. Ah voilà, c'est dans 1 Jean 4, 18. Est-ce qu'on peut ouvrir 1 Jean 4, 18? 1 Jean 4, 18. La Bible dit ici dans sa parole que la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mes frères et mes soeurs, nous devons remplir notre cœur d'amour. Amen. C'est de cette manière qu'on peut aujourd'hui bannir toutes sortes de craintes. J'ai l'amour. Priez pour que Dieu puisse remplir notre cœur d'amour. Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Amen. Et Dieu peut le faire. Amen. Écrivez ce verset, c'est vraiment très important. La crainte n'est pas dans l'amour. C'est 1 Jean 4, 18. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Deuxièmement, comment vaincre la crainte? Mes frères et sœurs, nous devons aller à la rencontre de notre crainte, face à face. Nous devons aller et rencontrer la crainte face à face. Invitez-le, dites-le de venir. Rencontrez la crainte. Quand je dis rencontrer la crainte, c'est-à-dire que tout ce que vous sentez, que ça vous pousse à avoir peur, à être dans la timidité, mes frères et sœurs, allez-y, faites ce travail-là. Amen. Je vous disais que j'étais tellement timide que j'avais même peur de m'exprimer devant les gens. Pour moi, non pas seulement j'avais peur devant, disons, les sœurs, mais j'avais peur devant, pour le fait de parler devant un auditoire. Je ne sais pas si vous est arrivé d'avoir peur. Je me rappelle un frère que j'ai donné une fois un micro. J'ai dit que non, vas-y, tu vas prêcher, tu vas parler, tu vas prêcher la parole. Tu vas exhorter le peuple de Dieu. Et il a eu peur. Il tremblait. Il y avait le micro qui tremblait. Et après, il me raconte, il dit, pasteur, du coup, quand je commençais à parler, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que tout le monde me regardait. Et tout le monde me regarde. Je dis, mais comment est-ce que tu veux exhorter les gens et que les gens ne vont pas te regarder? Donc, mes frères, mes sœurs, quand vous avez peur, à l'époque, j'avais peur de partager avec les gens la parole. J'avais peur. Et il y a un moment, je dis que non, pour vaincre cette crainte, je vais aller. Même si je vais rougir devant le peuple, mais je dois aller. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que plus je fuyais, plus je cherchais à me sauver. Quand on me demandait, par exemple, d'exhorter, de faire quelque chose, je fuyais, plus la crainte s'élevait. Plus j'avais peur. Plus j'avais peur. Plus je ne pouvais pas m'exprimer devant les gens. Mais après, je compris, non, je ne peux pas continuer à fuir. Je ne peux pas continuer à me sauver. Je dois mettre fin à cette crainte. C'est-à-dire, si on me demande, même si je peur, même si je tremble, je vais aller. Je dois aller. Et plus je commençais à m'entraîner comme ça, plus la crainte commençait à quitter. Amen. C'est-à-dire, mes frères et mes sœurs, si vous voyez, vous avez en vous, il y a quelque chose qui vous avez peur de faire, en tout cas, pour pouvoir vaincre cette crainte, faites ça. Faites cette chose-là. Amen. Allez à la rencontre, rencontrez cette crainte face à face. Allez, ne fuyez pas, allez-y. Entraînez-vous constamment. Vous avez peur d'entreprendre quelque chose. Non, faites ça. Vous avez peur de faire. Entraînez-vous constamment. Parce que quand vous faites ça, vous vous entraînez. Vous vous entraînez. Amen. C'est un exercice qu'il faut faire. Et plus on s'entraîne, plus la crainte va fuir. Elle n'aura plus la place dans votre vie. Amen. Ok. Troisième point. Comment vaincre la crainte? Comment vaincre la crainte? Troisièmement, mes frères, mes sœurs, nous devons demander à Dieu. Parce qu'on peut prier, demander, Seigneur, donne-moi le sang-froid. Enlève toutes sortes de craintes dans ma vie. Amen. Enlève toutes sortes de craintes dans ma vie. Demandez à Dieu dans la prière. Donne-moi le sang-froid. Donne-moi vraiment cette capacité-là de vaincre la crainte. Je ne veux pas avoir peur. Amen. Et le dernier point, c'est utiliser vos bonnes qualités. Toutes les qualités que vous avez, utilisez-les pour la gloire du Seigneur. Amen. Et la crainte que nous devons avoir, c'est la crainte devant le Seigneur. Amen. C'est la seule crainte que nous devons avoir dans notre cœur. C'est la crainte devant Dieu. La Bible dit que la crainte devant l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. C'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Mes frères et mes soeurs, nous avons vu le thème aujourd'hui, c'est les principes. Il y a encore d'autres points, mais en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement aujourd'hui. Amen. Je crois que ce sera, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une bénédiction pour notre vie. Et j'aimerais bien que nous puissions prier. Amen. J'aimerais bien qu'on puisse prier, que Dieu puisse nous aider à pouvoir accomplir tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Amen. Qu'on puisse prier. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Alléluia. Que toute gloire soit rendue en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que toute gloire soit rendue à notre Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut être dans la prière? À prier pour que Dieu puisse, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, que nous puissions le mettre en pratique. Amen. Pour accomplir notre mission, pour accomplir notre appel, pour accomplir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de ces qualités. Nous avons besoin de planifier notre avenir. Nous avons besoin de vaincre toutes sortes de paresse, de nous mettre dans le travail. Nous avons besoin de bannir toutes sortes de craintes. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin du sang-froid. Nous avons besoin de la force du Seigneur. Nous avons besoin de mettre fin à tout ce qui peut entraîner une chute dans notre ministère. Nous avons besoin, parce qu'aujourd'hui la France a besoin d'une nouvelle génération. Aujourd'hui nous avons besoin d'un rafraîchissement pour apporter l'influence du royaume de Dieu. Alléluia. Élevons nos voix, nos frères et sœurs. Élevons nos voix éternelles. Alléluia, Seigneur. Nous nous adressons à toi, Seigneur Jésus-Christ.